La vie est un art.
Deuxième émission avec vous, Martin Stéphane, sur l'art d'aimer. Dans votre dernier livre, paru chez Salvatore, intitulé « L'amour vrai », vous écrivez « Le contraire de la pornographie, ce n'est pas l'ascèse physique ni le discours qui refroidit, c'est le feu brûlant d'un désir qui renonce par amour à consumer l'autre ». Alors, comment protéger les enfants de la pornographie ? Faut-il les couper complètement du monde, fermer les portes ? Et si oui, jusqu'où ? Vous qui êtes père de 4 enfants, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire, et il ne faut pas le nier, il y a une vraie mission de mettre des murs, de mettre des seuils, voilà, de mettre des seuils, de dire, pour accueillir dans une maison, eh bien, il faut que cette maison ait des murs, il faut qu'il y ait le pas de la porte, et donc dire à l'enfant, tu vois, là tu es en dehors, là tu es en dedans, et lui indiquer des seuils, mais... Une fois qu'on a indiqué un seuil, on a, comme je le dis dans le livre, on a déjà fait perdre à l'enfant son innocence puisqu'on lui a indiqué que le monde existait, qu'il était plein de pièges et que le mal était là. Et que sans doute que même si c'était quelqu'un de bien, eh bien, il allait tomber et tomber souvent. Donc je pense que la deuxième chose à faire pour ne pas tomber dans ce que j'appelle dans un autre livre « La tentation du bunker ». C'est un film d'un jeune père de famille, Jeff Nichols, qui a fait un livre qui s'appelle « Take Shelter », ça veut dire « prendre abri ». Et dans ce livre-là, il raconte l'histoire d'un père qui a des rêves d'apocalypse et qui à la fois se soigne psychologiquement et à la fois fait un prêt immense pour construire un bunker dans son jardin. Et ce bunker, c'est un peu... comme pour lui, pour le père, construire un ventre maternel. Au fond, pour y mettre sa femme et sa fille dans le film. Et pour moi, c'est une vraie tentation, protéger l'enfant du monde par amour de son enfant. Or, l'enfant, on l'a mis au monde. Donc, ce qu'il faut faire pour ne pas céder à la tentation du bon cœur, c'est finalement se dire que l'enfant tombera, mais qu'il ne tombe jamais très bas si l'on peut reprendre dans la parole ce qu'il a vécu. Et vraiment, pour moi... ce qui nous sauve, enfin ce qui sauve l'enfant, je peux même raconter une petite anecdote, ce qui m'a un jour sauvé moi, c'est que j'entrais dans la musique, notamment dans la musique rock, que ma mère, elle voyait bien que ça marchait bien. Et un jour, elle m'a dit, tu sais Martin, je suis content qu'avec tes amis, ça marche bien ton petit groupe de rock, mais sache que tu vas entrer dans un milieu où il y a de la drogue et même de la drogue dure. Et elle ne s'est pas trompée. Eh bien... Alors après, je croyais qu'elle allait me dire, ne le fais jamais, voyez, mettre le mur. Et elle a ajouté ça, elle a dit, eh bien, en tout cas, quoi que tu fasses et quoi qu'il t'arrive, sache que nous serons toujours là pour toi. Et alors là, déjà, j'étais surpris par la chute et ça m'a évité de tomber dans... J'ai vu beaucoup de jeunes tomber, beaucoup de... Eh bien, moi, ça m'a évité parce que quelque part, j'étais plus tenté de vérifier qu'elle m'aimait en me mettant en danger. Et au fond, elle me disait « Mais je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Je crois que si l'enfant sait que, quoi qu'il ait vu, parce qu'une fois qu'on a vu, c'est trop tard, c'est vu, la scène pornographique, quoi qu'il ait fait, eh bien, il y a toujours une poche de parole dans laquelle il peut revenir, dans laquelle il peut déposer ses mots, M-A-U-X, et dans des mots, et que cette poche de parole, ce sera une poche d'écoute. Voilà, et donc, tout simplement ça. On ne peut pas protéger indéfiniment les enfants. Et au fond, il faut aussi... assurer ce service après-vente qui est de dire quoi que tu fasses. Au fond, c'est ça le métier de parent, je crois. C'est offrir un amour d'autant plus donné que l'enfant s'est davantage perdu.
Et en même temps, on sait que l'enfant peut se perdre, mais aussi il peut être perdu parce que quelqu'un abuse de lui. On sait trop aujourd'hui, on entend trop toutes ces questions terribles aussi de pédophilie, même au sein d'un lieu sacré qu'est l'Église. Vous, en tant que père, qu'est-ce que vous en pensez ?
Fort heureusement, pour l'instant, je n'ai pas été mêlé à cette chose terrible. On parle de l'Église. C'est vrai que Jésus parle de scandaliser l'innocence comme étant le pire. Le pire. Donc on est dans le pire, là. En effet, cet enfant brisait une vie, voilà, par perversité. Et en effet, c'est de la perversité, c'est-à-dire donner à quelqu'un qui ne peut pas le vivre, lui exiger de vivre quelque chose qu'il ne veut pas et qu'il ne peut pas vivre. On est vraiment dans le mal, je crois. Alors, j'ai pas eu à vivre ça, mais c'est vrai que je crois que installer l'enfant dans la relation de parole peut faire que si jamais ça arrivait, il pourrait en parler parce que, et je crois que même vous le savez vous-même, mais la façon dont réagit la victime, c'est d'abord de se sentir coupable. Et donc c'est d'abord soit à cause du traumatisme, soit à cause d'un mécanisme étrange, hein, même tout bêtement quand on tombe dans la rue, on se sent con, on se sent coupable, oui. Et donc là encore plus, c'est donc dire... quoi que tu fasses et quoi qu'il t'ait été fait, eh bien, nous sommes là. Mais en effet, après, vous parlez de colère au début du livre, je crois qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau cette colère-là contre... Il y a des choses qui nous demandent vraiment de n'être pas tiède.
Mais là, il y a une perversion encore plus grande parce que c'est un homme qui a autorité et qui représente le sacré.
Oui, je crois vraiment, le pape François a parlé de messe noire. C'est-à-dire, au fond, si pour un catholique, le sommet de sa vie, c'est la messe, eh bien, le sommet du mal qu'il peut faire, c'est de faire une messe noire. Et donc, quand il dit ça, il dit, au fond, qu'on est presque dans l'absoluité du mal. Et c'est vrai que ces abus de pouvoir, vous voyez, le prêtre, c'est un serviteur. Le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Ouais. Et en réalité... abuser de son autorité pour en arriver là, et on sait que ça arrive à l'Église, même moi j'ai quand même des souvenirs de lycéens, on n'en parlait pas, mais d'affaires avec des professeurs qui étaient très proches des élèves, très très aimables, très sympathiques, et qui en réalité profitaient de ce mélange d'autorité et de sympathie, c'était aussi très très pervers pour en arriver là. On est vraiment dans le mal. J'ai un peu de mal avec les gens qui pensent que, comme le disait Spinoza, il n'y a pas de bien et de mal en soi, il n'y a que du mauvais et du bon pour moi. Voyez, parce que vraiment, le mal existe. La perversion, c'est prendre l'ordre des choses et avoir plaisir à le mettre sans dessus. Normalement, je suis le serviteur de celui sur lequel j'ai autorité. Moi, je suis vraiment, et je me vis comme ça, le serviteur de mes élèves. Et c'est bien pour ça que je peux leur donner des devoirs. Et bon, donc je suis le serviteur de celui sur qui j'ai autorité. Le ministre, hein, comme on dit très bien d'ailleurs, ministre qui veut dire mineur, qui veut dire serviteur, celui qui se met en dessous, celui qui a autorité pour élever l'autre. Le maître veut que l'élève le dépasse. Et bien là, le maître écrase l'élève, détruit sa vie, brise sa vie en deux. Que dire ? Et donc, je crois que le mal existe et que le mal, c'est le plaisir pris à la perversion d'un certain ordre des choses.
La vie est un art.
Martin Stephens, dans votre livre « L'amour vrai », vous écrivez que dans la pornographie en tant que telle contient une part de vérité. C'est difficile à comprendre.
Oui, c'est difficile à comprendre, mais si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que ce qui nous a menés dans cette faute et ce qui nous emprisonne en elle est en réalité un désir vrai, et peut-être même un désir très très beau, bien, si on ne comprend pas ça, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Celui qui ne s'en sort pas, c'est celui qui fait une sorte de dichotomie dans son désir. Il y a le désir mauvais qui va voir le film pornographique, et il y a le désir bon qui, toute la semaine et dans la journée, est fidèle à sa femme ou fait bien son boulot. Et puis bon. Or, en réalité, c'est malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, le même désir qui fait que j'ai épousé cette femme et qui fait que, en cachette, je dis je, mais c'est. Heureusement, ce n'est pas mon cas et j'ai envie de dire, et en même temps, je suis supérieur à aucun homme, mais, et qui fait que cet homme va se lever de la nuit pour se gorger d'images et salir son imagination et la blesser avec ça. C'est le même désir, c'est-à-dire ce désir qui cherche dans sa vie un écho à son intensité, à cette volonté, c'est une formule biblique, mais qui dit d'être tout à tous. Et au fond, épouser sa femme, c'est dire « je ne veux pas m'appartenir, je veux que ma vie soit donnée à quelqu'un d'autre que moi ». Mais la pornographie, c'est quoi ? C'est « je veux voir des gens qui se dépossèdent de tout, de toute dignité, de toute volonté, ils sont captivés par leurs désirs. Je veux voir ça parce que, quelque part, sans doute qu'il y a là une image étrange, mais une image de l'amour. » Et je crois que c'est important de dire que de la même façon que le piège à souris contient vraiment une part de gruyère qui pourrait nourrir la souris, eh bien la pornographie comprend vraiment une part d'amour, mais qu'elle tient captive et qui va se refermer sur nous-mêmes. Et si vous voulez, l'adolescent qui va voir ça, alors il peut y aller par juste curiosité, mais déjà la curiosité, c'est la volonté de découvrir quelque chose, mais il veut découvrir quelque chose de l'amour charnel. Parce que s'il voulait juste découvrir comment on fait, eh bien ça ne lui ferait rien de plus que de regarder un documentaire animalier. Donc, je crois que la pornographie saisit ce désir de se donner entièrement. Elle en donne une image fausse, dévoyée, mais elle en donne quand même une image, ce par quoi l'on est piégé.
Vous dites que la pornographie singe l'amour.
Ouais. En réalité, c'est vrai que le mal, c'est pas le contraire du bien, c'en est le singe. Vous voyez, la prodigalité, dépenser n'importe comment, c'est le singe de la générosité qui est de dépenser en sachant ce que ça nous coûte, mais en le faisant tout de même. Le mal, c'est la témérité qui est d'agir sans mesurer les risques, sans prudence. C'est le contraire du courage qui est de mesurer les risques et d'agir quand même parce qu'on estime qu'on doit le faire. Et donc, vous voyez, le mal, c'est le singe du bien. C'est contre, mais c'est aussi tout contre. Eh bien, la pornographie, c'est le singe de l'amour. C'est le singe de l'amour. L'amour, c'est de se donner. Là, on voit des corps qui se donnent. Et peut-être que l'enfant, l'adolescent se dit, mais comme dans l'expérience de la drogue dure, qui est une sorte de singe de l'extase, une caricature de l'extase, un singe de l'expérience mystique, la drogue dure, par exemple. J'ai envie de dire, la faute, elle vient par une toute petite déviation, mais qui, à la fin, amène un grand malheur. Je voulais l'amour charnel, je l'ai eu par écran interposé et je n'ai plus que moi-même avec mon obsession. C'est d'une grande tristesse, mais au départ, je voulais l'amour charnel.
Vous parlez beaucoup des enfants, des adolescents. Dans votre livre, il y a une histoire rabbinique d'un rabbin qui est dans un bus avec son fils. Pouvez-vous nous la raconter ?
Ah oui, alors je conseille aux éditeurs, je touche rien dessus, mais de regarder cette série-là. Je déconseille les séries, notamment à mes étudiants, parce que c'est souvent très bien fait et c'est très chronophage. Donc, dès que je vois qu'une série est très bonne, je ne la regarde pas. C'est un principe dans ma vie pour pouvoir travailler et être avec mes enfants et mon épouse. Mais là, quand même, je la conseille, déjà parce qu'il n'y a que 2 saisons. Et puis, c'est pas une série qui va capter, qui va sidérer, qui va vous ôter de votre vie. C'est les ch'tis. Les Ch'tizol, c'est une série israélienne qui met en scène des juifs orthodoxes dans leur vie quotidienne et dans leur vie toute simple et toute pauvre, bien souvent.
Ça s'écrit comment ?
Ch'tizol, c'est S-H-T-I-S-E-L, les Ch'tizol. Et dans l'épisode de la saison 1, il y a ce rabbin qui est avec son fils dans le bus et le fils doit avoir 11-12 ans et puis il se met à regarder, il y a une femme qui allait de son enfant dans le bus, bon, et il devine derrière l'enfant la poitrine. Il y a une femme dont on ne voit pas le visage, c'est hors champ, mais on voit par contre les jambes. Et le père, qui lit la Torah très sérieusement, voit aussi cette femme et voit que son fils est en train de voir. Il lui dit, tu sais ce que faisait mon papa quand on prenait le bus pour aller en ville ? En gros, quand le juif orthodoxe sort de sa bulle et va dans le monde, eh bien, il me mettait ses lunettes. Et comme ça, il y voyait moins bien. Et moi aussi. Tu veux qu'on essaye ? Alors l'enfant dit pourquoi pas. Et on voit, c'est très très beau, Akiva dans la série, qu'on voit petit ici, avec les grosses lunettes de son papa qui lui mangent les joues. Et en effet, tout à coup, la femme qui allait, la femme aux belles jambes, il voit tout ça flou. Alors il dit, ça fait un peu mal, ça va pas m'abîmer la vue ? Et son père, il dit, tu sais, ce qui abîme le regard, c'est pas toujours de ne pas voir, c'est aussi tout ce qu'on voit. Et je trouve que cette histoire est très belle parce que, d'ailleurs, on n'est pas dans la loi d'abord, on est dans la relation d'un père à son fils et d'un père qui apprend à son fils à regarder, c'est-à-dire à voir et aussi à ne pas voir.
La vie est un art.
Martin Stéphane, c'est vraiment passionnant. Nous parlons ensemble de l'amour vrai. Et dans votre livre, vous n'hésitez pas à donner aussi de vous-même. Vous écrivez des choses assez personnelles. Et entre autres, vous écrivez que le manque est constitutif de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage ?
Car sentir comme tu me manques, c'est aussi savoir à quel point je t'aime. C'est par ce creux de toi en moi, mesurer mon amour pour toi et le don que tu es dans ma vie. C'est par l'espace laissé en ton absence et chaque fois creusé par ta présence, te sentir encore, comme l'amant devine sur l'oreiller la tête où reposer celle qu'il aime. Cela, qui fait place à l'être aimé, vaut mieux que l'alcool ou l'héroïne qui ne fait place à rien, pas même à soi-même.
Le manque constitutif de l'amour, c'est-à-dire que c'est normal en fait de vouloir être comblé, il faut laisser aussi ce creux en soi.
Oui, ça finit sur la drogue dure ou l'alcool, et le film pornographique c'est la même chose, qui viennent court-circuiter le désir en donnant une satisfaction au désir qui le coupe en réalité de ce qu'il désire vraiment. Et en effet, dans l'alcool, je me donne la relation presque. L'homme ivre à la fin dit « mais si personne ne me comprend, moi je me comprends moi-même ». Vous voyez, on se donne la relation, or la relation c'est ce qu'on ne peut pas se donner. Et quand on vit vraiment la relation, en effet, on consent à ce que le manque. En réalité, le manque dans la relation est tout proche de la plénitude. En réalité, le manque de toi dans ma vie, c'est la trace qui laisse l'amour que j'ai pour toi. Et donc ce manque, aussi douloureux soit-il, est une bonne nouvelle. Et je trouve que de nos jours, on est binaire, si vous voulez. On est soit dans la plénitude, la satisfaction de tous ses désirs, soit dans le manque, et alors on n'est pas heureux. Or, aimer, c'est quoi? C'est une joie douloureuse. C'est une joie, une vraie joie, parce que je me réjouis que tu sois, je me réjouis que tu existes. Il y a une bonne nouvelle dans ma vie, et c'est toi. Et même si tu ne m'as pas donné de nouvelles depuis 4 jours, j'ai appris que tu allais bien. Et c'est ça qui me rend heureux. Prenons par exemple pour l'amour dans une histoire d'amitié. Et donc, c'est une joie, mais c'est une joie douloureuse parce que c'est faire en soi une place pour un autre que soi. Et ça, c'est pas évident. Et c'est pas évident en couple. C'est pas évident même dans la vie spirituelle. Mais c'est pas évident en couple. Et quand le couple a un enfant, eh bien, ce qu'il va leur donner de vivre, c'est ce manque de toi dont je souffre, eh bien on va le vivre ensemble, on va le décliner à la première personne du pluriel, cette fois-ci avec l'enfant, puisque à la fois c'est notre enfant et à la fois il est beaucoup plus que cela. Et voilà, et quand il va à l'école, je n'ai rien, je ne peux pas le retenir à moi. Et quand il va dans sa vie d'adulte, et quand il va au risque de la vie, et même l'idée de sa mort me rappelle toujours que je ne le possède pas et qu'il appartient d'abord à sa vie.
Est-ce normal qu'on ait un désir de paradis en soi, d'être comblé totalement?
Ah oui, on a un désir de paradis et c'est marrant parce que j'en suis venu à parler de ça avec mes élèves hier. C'est un des cours de philosophie, mais il y a un élève qui m'a dit « Mais finalement, est-ce que la façon dont on se représente la plénitude ou le paradis, c'est pas déterminant ?» Et alors, on s'est mis à parler pendant pratiquement une heure du paradis, mais pour moi, on a fait quelque chose d'essentiel parce que je leur disais « Mais la façon dont vous vous représentez ou dont l'homme religieux s'est représenté le paradis est en réalité déterminant pour votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le paradis pour vous? Est-ce que c'est l'orgie de tous les plaisirs satisfaits, comme on le présente dans certaines religions? C'est très rigolo parce que je leur citais Léon Blois, que je cite dans le livre, ou plutôt Jeanne Blois, sa femme, qui dit « Mais peut-être les plaisirs d'ici-bas sont une image de l'enfer au-delà. » C'est-à-dire que l'enfer, pour moi, ça serait être dans une orgie dont je ne pourrais jamais sortir. Parce que l'orgie, c'est le rapport sans relation. C'est le rapport sans relation puisqu'on tire son plaisir de l'autre. Et l'autre tire son plaisir de nous-mêmes. Et au contraire, le paradis véritable, pour moi, sera un paradis très sobre. Le paradis véritable, c'est peut-être même tout proche de ce que nous vivons tous les jours. Pour moi, le paradis, ça sera exactement cette vie sur Terre. C'est peut-être un peu décevant, mais je ne le crois pas. Le paradis, c'est exactement cette vie sur Terre, mais soulagée de la peur de perdre, de la peur de mourir, et du poids qui est en nous, qu'on appelle le péché, cette volonté de prendre avant que la chose nous soit donnée. Et pour moi, une journée où finalement je me dis « mais voilà, j'ai été comblé, mais on est déjà au paradis ». Pour moi, le paradis, c'est la vie dans la relation. La violence, c'est le rapport sans relation. Le plaisir peut être violent, parce que ça peut être un rapport sans relation. Et le paradis, c'est le rapport augmenté par le fait que ce qu'on préfère dans ce rapport, c'est la relation à l'autre.
Un grand merci Martin Stephens. Je renvoie votre livre « L'amour vrai » qui a pour sous-titre « Au seuil de l'autre » chez Salvatore.